pour introduire notre étude d'aujourd'hui, qui fait suite à celle que nous avons menée au mois de novembre. En décembre, il n'y a pas eu de dimanche d'institut biblique. Je vous invite à suivre la lecture d'un passage de l'Épître aux Romains. Je lirai dans l'Épître aux Romains deux sections qui se font suite, qui constituent un tout. Il est utile de les lire ensemble pour leur interprétation. Malheureusement, on néglige assez souvent de le faire parce qu'elles appartiennent à deux chapitres distincts, deux chapitres successifs, mais deux chapitres distincts. Et on oublie que les chapitres n'étaient pas divisés lorsque les auteurs de la Bible ont écrit les livres de la Bible. La numérotation par chapitre est intervenue plus tard. Je lis au chapitre 12, en commençant au verset 17, et j'irai jusqu'au verset 10 du chapitre 13. Épître aux Romains, chapitre 12, verset 17 jusqu'à 13-10. Et après que nous aurons lu, nous nous recommanderons au Seigneur, et je demanderai à notre frère qui est devant moi là, qui va nous conduire, Monsieur Chandrel. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Ne vous vengez pas vous-même, bien-aimé, mais laissez agir la colère, car il est écrit « À moi la vengeance, c'est moi qui rétribuerai, dit le Seigneur. Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. » Car en agissant ainsi, ce sont des charbons ardents que tu amasseras sur sa tête. Ne sois pas vaincu par le mal, mais vainqueur du mal par le bien. Que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a pas d'autorité qui ne vienne de Dieu, et les autorités qui existent ont été instituées par Dieu. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre de Dieu, et ceux qui résistent attirent une condamnation sur eux-mêmes. Les gouvernants ne sont pas à craindre quand on fait le bien, mais quand on fait le mal. Veux-tu ne rien, ne pas craindre l'autorité? Fais le bien, et tu auras son approbation, car elle est au service de Dieu pour ton bien. Mais si tu fais le mal, sois dans la crainte, car ce n'est pas en vain qu'elle porte l'épée, étant au service de Dieu, pour montrer sa vengeance et sa colère à celui qui pratique le mal. Il est donc nécessaire d'être soumis, non seulement à cause de la colère, mais encore par motif de conscience. C'est aussi pour cela que vous payez les impôts, car ceux qui gouvernent sont au service de Dieu pour cette fonction précise. Rendez à chacun ce qui lui est dû, la taxe à qui vous devez la taxe, l'impôt à qui vous devez l'impôt, la crainte à qui vous devez la crainte, l'honneur à qui vous devez l'honneur. Ne devez rien à personne, si ce n'est de vous aimer les uns les autres, car celui qui aime les autres a accompli la loi. En effet, les commandements... Tu ne commettras pas d'adultère, tu ne commettras pas de meurtre, tu ne commettras pas de vol, tu ne rendras pas de faux témoignages, tu ne convoiteras pas. Et tout autre commandement se résume dans cette parole, tu aimeras ton prochain comme toi-même. L'amour ne fait pas de mal au prochain, l'amour est donc l'accomplissement de la loi. Jusqu'ici notre lecture. Monsieur Jandrel veut-il nous conduire?
Seigneur notre Père, tu sais combien... Nous désirons profondément te connaître, donc avoir une communion la plus parfaite possible avec toi, une communion personnelle et profonde. Tu sais combien nous désirons aussi, non seulement d'être fidèles, mais, comme le dit si bien dans l'Écriture, te faire plaisir. Cependant, mon Dieu, malgré toute cette volonté, malgré l'intelligence que tu nous as donnée, il y a bien des problèmes qui demeurent irrésolus. Comme l'un des serviteurs l'a dit, 10 000 difficultés, ça ne fait pas un doute, et cependant, il y a de nombreux domaines où nous hésitons. Et le domaine où nous étions ensemble aujourd'hui, sachant que tu es au milieu de nous, et l'un de ces domaines est sans doute l'un des plus douloureux pour les uns et pour les autres. Veuille donc, Seigneur, conduire celui les façons des lectures veulent nous diriger. Et quelles que soient les opinions que nous pourrons ensuite conserver, faire que la communion est la plus parfaite demeure entre nous, celle de serviteurs, d'esclaves, désireux seulement de te servir. Encore une fois, de te plaire. Nous te demandons, Seigneur, sachant que tu nous as tout donné, et voulons aussi pleinement être à toi.
Amen. Amen. Nous nous sommes rendus compte la fois dernière que la guerre, à la lumière de la Bible, est un phénomène complexe. C'est un mal et un effet de mal, et pourtant il semble que dans certains cas, aux yeux de Dieu, ce soit un moindre mal, inévitable dans le monde tel qu'il est, et avec parfois des commandements de Dieu, en tout cas dans l'Ancien Testament la chose est évidente, enjoignant de faire la guerre. La question que nous abordons aujourd'hui est une question distincte, mais elle se greffe évidemment sur la première. La guerre étant ce qu'elle est, qu'en est-il éventuellement de la participation du chrétien? La guerre engageant des collectivités, comme nous l'avons défendu, et sur la base de l'usage scripturaire de la notion, nous faisons partie de collectivités, d'une nation. Qu'en est-il, dans le cas de la guerre, de la conduite à tenir? Sur ce point, comme M. Gendrel l'a déjà évoqué dans la prière qu'il a prononcée en notre nom à tous, et à laquelle nous disons tous Amen, ce sujet n'est pas un sujet sur lequel les chrétiens évangéliques seraient unanimes. Il y a des opinions diverses, et nous devons essayer d'examiner, pour éclairer davantage la question, d'étudier ensemble les arguments des uns et des autres. Le titre que j'ai choisi, puisque les deux volets étaient sous le titre général de la guerre, de l'étude de novembre et de celle d'aujourd'hui, le titre que j'ai choisi, « La participation du chrétien », est un titre possible, mais on pourrait aussi parler de la question du pacifisme. C'est une façon habituelle de s'y référer. Ou encore de l'objection de conscience. Car il paraît que ce sont les Quakers qui, les premiers, ont utilisé l'expression. Les chrétiens, d'abord, et puis ensuite d'autres que des chrétiens, qui, en conscience, ont jugé qu'ils ne pouvaient pas porter les armes et participer à un conflit armé, en tout cas comme guerriers, ces chrétiens ont dit objecter au nom de la conscience, et on les a appelés objecteurs, ou ils se sont appelés objecteurs de conscience. Le sujet qui nous occupe peut aussi être intitulé le sujet de l'objection de conscience. Quelle détermination adopter en face de lui? Nous allons procéder de la manière suivante aujourd'hui. Je vous indique le plan que je vais suivre. Je vais présenter très brièvement les deux positions principales. Il y a toujours des nuances, il y a toujours des positions intermédiaires qu'on peut imaginer, mais je suis obligé de simplifier, n'est-ce pas? Puis, je présenterai l'argumentaire pacifiste, c'est-à-dire l'ensemble du plaidoyer, puis l'argumentaire opposé, et puis je finirai, dans une dernière section, en disant mon avis sur les arguments échangés, et en faisant quelques remarques complémentaires, parce que je crois que ce sera nécessaire. À coup sûr, dans le temps que nous avons, je ne pourrai pas sonder tous les points qui mériteraient d'être approfondis. Je suis obligé d'être assez bref, surtout que j'espère que nous aurons bien le moment aussi de quelques échanges. Je vous indique donc quelques éléments de bibliographie. Je pense que je peux signaler en français ce petit livre qui est d'un auteur ménonite. Il est traduit de l'anglais, mais il a été publié par nos frères ménonites, qui sont les pacifistes classiques, comme je vais l'indiquer, les traditionnels, par John Wenger, ou Wenger, l'Évangile de paix. C'est un petit résumé de la position de pacifistes évangéliques qui peut vous être utile. J'ai aussi apporté avec moi un volume, alors qui est l'un des volumes académiques scientifiques principaux, qui est concentré sur la question de l'Église des premiers siècles et de ce qu'elle a pensé et fait à propos de notre sujet. Il s'agit d'un ouvrage de Jean-Michel Hornus, H-O-R-N-U-S, Évangile et Labarum, ou Labarum si vous préférez, c'est le mot latin pour l'étendard militaire, et ce livre est un livre d'études historiques approfondies, d'orientation pacifiste également. Alors en français, je n'ai pas grand-chose à vous indiquer en ce qui concerne la position classique, traditionnelle, d'un point de vue évangélique. Je ne l'ai même pas apporté avec moi parce que c'est vraiment trop léger. J'ai vu un petit opuscule, vraiment mini opuscule, d'Émile Doumergue, l'ancien doyen de la faculté de Montauban, mais ce n'est pas grand-chose. Je pense que ce qui peut vous être le plus utile, c'est d'une part des ouvrages en anglais, pour ceux qui lisent en anglais. Il y a un volume avec des positions diverses qui a été publié par l'InterVarsity Press, qui, sous la direction d'Oliver Barclay, l'ancien secrétaire général des GBU en Grande-Bretagne, avec plusieurs auteurs de tendances diverses, mais c'est très intéressant, donc c'est un ouvrage que je peux recommander. Il y a un numéro spécial de la revue Evangelical Quarterly, très remarquable, avec en particulier une étude historique par David Wright, qui est un des meilleurs historiens évangéliques au monde aujourd'hui. Il vient d'obtenir d'ailleurs une chaire de l'Université d'Édimbourg, après y avoir enseigné comme maître de conférence pendant très longtemps. C'est un travail très affiné sur lequel je m'appuie beaucoup, donc je signale aussi cet ouvrage. Et puis alors je signale ce qui n'est pas un livre publié, mais qui est un dossier qui peut vous être très utile. Réalisé grâce à la commission de réflexion éthique conjointe de la Fédération des Églises Baptistes et de l'Union des Églises Libres, un document avec plusieurs études, là aussi des études de tendances diverses. Le désarmement, guerre ou paix, ça date déjà d'il y a 10 ans, je crois que cela reste tout à fait d'actualité. Il y a 4 études, enfin la dernière est abrégée, c'est sur des notes, et elle ne vient pas d'un auteur représentatif de nos cercles évangéliques, c'est le pasteur Cavalier, mais autrement il y a 3 études de professeurs de la faculté de Vaux-sur-Seine. Le petit ouvrage commence par une longue étude que j'ai faite. Ensuite, il y a une étude du professeur Émile Nicole, qui est le doyen actuel, sur les données bibliques, plus spécialement. Et puis une étude du professeur Neil Blau, qui est ménonite et qui est pacifiste, et qui a beaucoup travaillé la question aussi. Donc vous avez 3 études dans ce cahier. Je ne sais pas si ce cahier de la commission Évangile et Société, donc de l'ancienne Confédération des Églises évangéliques unies, à laquelle nous étions aussi associés, si ce cahier est encore disponible comme tel. S'il ne l'est plus, on peut faire des photocopies de ce que j'ai. Je vous le signale pour ceux qui souhaiteraient avoir cet instrument de travail. Donc, deux convictions opposées sur le sujet. La conviction que j'appellerais classique parce qu'elle a été majoritaire pendant presque toute l'histoire de l'Église, en tout cas une part très considérable de l'ensemble de l'histoire de l'Église, c'est la réponse oui à la question « Le chrétien peut-il porter les armes et s'en servir ?» Le chrétien le peut, mais en respectant certains critères, ce qu'on appelle, l'expression n'est peut-être pas extrêmement heureuse, mais ce qu'on appelle les critères de la guerre juste. La guerre juste, ça ne veut pas dire une guerre qui serait considérée en soi comme un bien, une guerre à laquelle on applaudirait, c'est toujours une épreuve extrêmement douloureuse, mais une guerre pour laquelle participer n'est pas un péché, où un chrétien peut, sans faire d'entorse à la justice de Dieu, participer. Voilà ce que, selon la première conviction, celle de la majorité, au cours de la plupart des siècles de l'histoire de l'Église, ont pensé les membres des diverses églises. La guerre juste se définit comme une guerre de défense, ce n'est pas une guerre de conquête, une guerre d'agression gratuite, c'est une guerre qui n'intervient qu'après que tous les efforts ont été déployés pour régler les questions conflictuelles d'une autre façon, où on a essayé de négocier au maximum. C'est une guerre qui est déclarée par l'autorité compétente, c'est une guerre qui est menée avec une proportion de moyens que par rapport aux enjeux et aux choses qui sont considérées comme des torts, il n'y ait pas disproportion dans les moyens employés. Une guerre aussi qui ait quelques chances de succès, ça fait partie des critères traditionnels de la guerre juste, une opération qui est suicidaire, même si c'est un peuple qui est agressé, n'est pas considéré comme une guerre juste de la part de ses dirigeants, d'après cette théorie, donc de la conviction classique. Alors qui adhère à cette conviction? Il y a l'Église catholique romaine, l'Église orthodoxe orientale, les grandes églises multitudinistes que vous connaissez, les églises luthériennes et réformées issues de la réforme qu'on appelle magistérielle, celle qui s'est faite avec l'aide des magistrats, les grandes églises historiques du protestantisme, l'église anglicane également, les églises baptistes, la tradition baptiste qui est née au XVIIe siècle, a aussi adopté cette même doctrine et pratique, avec une différence qu'on peut signaler, c'est que jamais les baptistes n'ont encouragé une guerre pour raison religieuse. Une guerre pour imposer la foi, alors que dans les autres églises, cela n'a pas été exclu. Les baptistes ont eu à cœur, dès le début de leur mouvement, de bien marquer le principe de la liberté de conscience, et ont distingué très nettement entre le religieux et le politique. Donc, ils n'ont pas approuvé de guerre pour des raisons religieuses. En tout cas, ça a été le principe baptiste. Je ne pense pas qu'ils aient jamais béni les canons, comme cela s'est fait dans des cérémonies avec des représentants d'autres rameaux du christianisme. Il y a quand même eu des baptistes et des officiers supérieurs baptistes dans l'armée de Cromwell, dans les guerres du XVIIe siècle en Angleterre. Donc là, je ne sais pas jusqu'où ils ont été fidèles à leur principe strict de séparation, puisque Cromwell était à la tête d'une armée puritaine. Puis il a conquis le pouvoir, le roi a été décapité. Bon, ça, c'est pas, vous avez eu là une intervention dans le champ politique, et il y a eu des baptistes aussi. Mais enfin, je pense qu'on peut souligner que si la tradition baptiste a été celle de la position classique, répondant oui à la question posée de la participation éventuelle du chrétien à la guerre, il y a quand même eu une distinction très nette entre les questions proprement religieuses concernant l'Église comme telle, et puis la guerre qui concerne la société civile, la nation. Je pense que c'est le cas aussi des pentecôtistes, mais ils n'ont pas eu une très longue tradition, donc je pense qu'ils se classent aussi de cette façon, et la plupart des assemblées de frères, je n'ai pas connaissance d'une position très singularisée par rapport à cette position classique. Si on cherche de très grands représentants de la théorie de la guerre juste en notre siècle, j'en citerai deux. Il y a un spécialiste de la réflexion éthique qui n'était pas strictement évangélique, mais qui a fait un travail de très grande valeur, Paul Ramsay. Et puis, il y a un professeur actuel à l'université d'Oxford, qui est un évangélique, Oliver O'Donovan, qui a écrit aussi un ouvrage sur la question. Je pense qu'on peut regarder à lui. C'est intéressant pour vous de savoir que ce professeur évangélique a écrit un ouvrage fondamental d'éthique qui s'appelle en anglais La résurrection et l'ordre de la moralité. Et ce livre a été traduit en français et publié aux presses universitaires de France. PUF. Traduit par un catholique français, publié par un grand éditeur universitaire qui n'a généralement pas de titre d'orientation évangélique du tout. Je peux le signaler au passage, bien que ça ne concerne pas notre sujet d'aujourd'hui. L'autre option, qu'on appelle pacifiste, c'est le terme que je vais employer, ne pas confondre pacifique et pacifiste, tous espèrent être pacifiques, mais la conviction pacifiste est la conviction qui s'oppose à la conviction classique. La réponse là est non. Le chrétien ne peut pas participer à la guerre en portant les armes. Et là, vous avez une bifurcation, deux modalités, soit parce que la guerre et le service des armes caractérisent le monde dont le chrétien n'est plus. Ça, c'est une première option. Soit parce que, pour le monde même, estiment ceux qui choisissent cette seconde option, la guerre n'est pas inévitable, la guerre pourrait être complètement éradiquée, le monde lui-même aussi pourrait connaître la paix et la réconciliation sans aucune guerre. Là, c'est davantage les pacifistes de tendance libérale qui ont adopté cette seconde ligne. Vous voyez la distinction. Et quant à la première, qui est celle de nos frères Ménonites, par exemple, vous avez aussi une distinction qu'on peut signaler dès maintenant. Certains disent, Dieu effectivement a institué le maniement de l'épée, et ça peut aller donc jusqu'à la guerre, dans le monde. Le chapitre 13 de l'Épître aux Romains signifie qu'en effet, Dieu l'a établi, et il y a l'autorité divine qui y est engagée. C'est ce que disent traditionnellement les Ménonites, dans leur confession de foi de Schweitheim, par exemple. Mais le chrétien, lui, n'est plus de ce monde-là. Le chrétien est de la cité céleste, donc même si Dieu l'a établi pour ce vieux monde, le chrétien ne doit pas y prendre part. Et puis vous avez une position qui est néo-ménonite, qui est représentée par le professeur John Yoder, par exemple, qui dit... Non, Dieu le tolère dans le monde. Dieu canalise ce mal comme il canalise tout le mal qui se fait dans le monde, mais il ne faut pas comprendre Romains 13 autrement que simplement de cette supervision du gouvernement de Dieu. Ce n'est pas quelque chose qu'il a établi. Voilà ce que disent certains néo-ménonites. Donc vous avez deux versions de la première option. Vous avez l'autre option qui est celle donc d'un optimisme pour la société selon lequel la guerre pourrait entièrement en disparaître dans le monde même. Alors qui se rattache à cette seconde option pacifiste? Il semble que les Vaudois avant la Réformation au cours du Moyen-Âge aient adopté des vues de cette teneur, donc ils aient été pacifistes de cette façon. Mais c'est surtout à partir de la Réformation que nous reconnaissons une histoire bien définie. L'aile radicale ou gauche, comme on l'appelle parfois, de la Réformation, avec les anabaptistes, a été pionnière dans le choix du pacifisme, dans la conviction que le chrétien ne peut pas participer à la guerre, ne peut d'ailleurs pas non plus participer à la magistrature, ne peut pas être... maire d'une petite cité, il doit être entièrement en dehors parce que c'est le monde. Ça a été la conviction des anabaptistes. Tous les anabaptistes n'ont pas eu cette conviction. Il y a eu quelques variations, il y en a eu qui ont été même violents, une frange. Mais ceux qui ont survécu, qui ont eu une postérité spirituelle, grâce au travail de réorganisation de Menno Simons, et du coup on les a appelés Ménonites, sont ceux qui ont gardé la continuité jusqu'à nos jours. Donc, vous avez les anabaptistes, et donc spécialement les ménonites, depuis le XVIe siècle. Au XVIIe siècle, il y a eu un autre courant, celui des Quakers. Les Quakers, ça veut dire les trembleurs. Au départ, c'était un mouvement plutôt spiritualiste, un peu excité, avec des expériences physiques, tremblements, mais du coup, on les a appelés les trembleurs, les Quakers. Ils insistaient beaucoup sur la lumière intérieure, sur des révélations spéciales du Seigneur, et puis en même temps, ils étaient très révolutionnaires du point de vue social. Ils amusent beaucoup en anglais parce que ils ont employé systématiquement « je » et « tu »,« thou » en anglais, pour bien marquer qu'ils ne voulaient pas employer le « vous » disons, des rites de respect social. Mais, vous savez, l'évolution qu'il y a eu en anglais, aujourd'hui, plus personne ne dit « thou », sauf certains qui sont encore un peu vieux jeu lorsqu'ils s'adressent à Dieu, et, parce que c'est comme ça dans la Bible, le « tu », dans les traductions de la Bible, et ce thou, le tu anglais, qui n'est plus du tout employé dans la vie courante, que les enfants entre eux ne vont pas employer, surtout pas, etc., il fait très solennel. Vous voyez, ça donne une impression de climat, de vénération, de sacré, si on emploie thou. Or, les Quakers, eux, dans une intention juste opposée, l'ont employé entre eux. Et se disaient thou, comme maintenant, seuls les plus solennels le disent lorsqu'ils s'adressent à Dieu. Voilà. Les Quakers ont évolué vers des positions très très libérales. Il y a eu quelques mouvements de retour, mais on peut dire que leur christianisme a perdu beaucoup de son contenu, devenant une sorte d'humanisme très, très actif dans le domaine social. Et ils ont créé un autre type de pacifisme dans la tradition chrétienne, qui a influencé même des non-chrétiens, et qui s'est trouvé assez fortement représenté dans des courants du protestantisme libéral, en particulier la branche du christianisme social. En France, le christianisme social a été un foyer de pacifisme, donc tout à fait à part du foyer mennonite qui correspond aux évangéliques. Voilà très schématiquement ce qu'il en a été des positions en présence. Il y a quelques petits remaniements dont je pourrais dire quelques mots à la fin, mais je passe maintenant aux arguments présentés par les uns et les autres. J'espère ne pas les caricaturer en les résumant, mais il faut bien essayer de présenter les choses. Du côté pacifiste, de ceux qui disent non, le chrétien ne peut pas, le fondement de la conviction me semble double, mais les deux éléments de la dualité sont étroitement liés entre eux, l'enseignement et le modèle de Jésus. Si j'écoute mes frères mennonites, c'est très clair, et aussi d'autres pacifistes que les mennonites, c'est la parole de Jésus dans le sermon sur la montagne et ailleurs aussi qui dit « Ne résistez pas aux méchants, si l'on vous frappe sur une joue, présentez l'autre. » Ne résistez pas aux méchants, qui est considéré comme le premier principal fondement de la position. Donc l'enseignement de Jésus, et puis son modèle. Jésus a pratiqué cela même, Jésus a été un non-violent, et Jésus s'est laissé finalement crucifier injustement, sans recourir à la force pour échapper à ce sort. Donc Jésus nous a donné le modèle de cette attitude qui ne résiste pas aux méchants, qui se livre à ses coups, qui ne prend pas donc les armes. Ça c'est le fondement principal. En ce qui concerne le modèle de Jésus, on peut signaler qu'il y a quand même une petite difficulté qui surgit. Jésus semble avoir usé de la force d'une manière que beaucoup diraient violente lorsqu'il a purifié le temple, lorsqu'il a été saisi d'une sainte colère, le zèle de la maison de Dieu l'a dévoré, il a fait un fouet avec de la corde, il a renversé les tables des changeurs, il a fait fuir tous les bœufs, les moutons qui étaient là. Alors, je trouve que mes amis pacifistes ont un petit peu de mal à commenter ce passage. Je me rappelle un article de Jean Lasserre, qui a été un grand pacifiste du christianisme social français, essayant de dire « ce n'est que les moutons et les bœufs que Jésus a frappés, mais il n'a pas frappé les personnes ». Je pense que là, c'est quand même pas très facile à interpréter sous cet angle. Alors je développe un petit peu ce que je dis de ce fondement principal. Le commandement de Jésus de ne pas résister aux malins est souvent enrichi d'autres données bibliques dans le même sens. Souvent, on élargit en évoquant le « tu ne tueras pas » dans le décalogue. « Tu ne tueras pas » comme l'un des commandements principaux. Et puis, on élargit en évoquant le commandement d'amour. L'amour ne fait pas de mal au prochain. Toute la loi se résume dans le commandement « tu aimeras », comme nous venons de lire au chapitre 13 de l'Épître aux Romains, et au chapitre 12, nous avons le passage où Paul dit de ne pas rendre le mal pour le mal. C'est aussi l'enseignement de l'apôtre, et de faire du bien à l'adversaire en lui donnant à manger s'il a faim, boire s'il a soif, et ce faisant tu amasseras des charbons ardents sur sa tête. Alors qu'est-ce que ça veut dire cette image? Là c'est discuté, mais une interprétation qui est assez communément reçu, c'est que ça va tellement faire pression sur lui moralement que il va craquer, il va se convertir, il va revenir de sa méchanceté, parce que ça deviendra intenable pour lui d'être l'objet de tant de bienveillance. Ça, c'est au moins une interprétation. Cet enseignement de Jésus et ce modèle de Jésus élargi à toutes les données de l'Écriture sur l'amour est bien sûr opposé à la pratique du monde telle qu'on l'observe. Et à propos de cette opposition au monde, donc, vous avez le prolongement de cette diversité parmi les pacifistes que j'ai indiqué. Certains diront, pour le monde, c'est inévitable, le monde est comme ça, le monde pécheur, seulement l'Église n'est pas du monde, l'Église est radicalement autre chose. Et puis vous avez plutôt alors du côté du libéralisme protestant, ceux qui diront, en fait, dans le monde même, on peut changer les choses. Une pratique non violente peut obtenir des résultats tout à fait satisfaisants, aboutir à la réconciliation entre les humains. Et cela veut dire une double attitude, cette diversité, quant au réalisme. Parce que très souvent, l'argument qu'on a opposé au pacifisme, c'est de dire, c'est pas réaliste. Il faut bien se défendre quand on est attaqué, il faut bien, si un pays est attaqué, il faut bien que ces hommes se lèvent pour défendre les cités, les familles, etc. Et que répondent alors les ménonites d'un côté, les pacifistes de type libéral de l'autre? Les ménonites répondent en général, c'est pas à nous d'être des réalistes. Le cours de la réalité, il est entre les mains de Dieu, c'est lui qui s'en occupe, nous avons à être fidèles. Et même si nous ne voyons pas que cela réussit, nous faisons confiance au Seigneur, il nous a dit de ne pas résister aux méchants, nous ne résistons pas aux méchants, et nous allons jusqu'au martyr. La théologie ménonite s'est souvent présentée comme une théologie du martyr. De même que Jésus s'est laissé mettre à mort, de même ses disciples, haïs par le monde, parce qu'ils ne sont pas du monde comme il n'est pas du monde, se laissent mettre à mort. Voilà une ligne concernant le réalisme. Mais les autres pacifistes ont plutôt tendance à dire, c'est une fausse idée du réalisme que vous avez. En fait, quand on est vraiment réaliste, on se rend compte que la défense par les armes ne fait que prolonger le cycle de la violence. Contre la violence se dresse une violence opposée, et ainsi de suite indéfiniment. Le vrai réalisme consiste à changer radicalement d'attitude, à s'offrir au coup pour que l'autre soit touché et qu'une réconciliation effectivement soit possible. Nous pouvons espérer que le monde guérisse de sa violence si nous sommes, nous, les premiers des non-violents. Voilà l'autre ligne, qu'on pourrait dire moralement optimiste, que représente la deuxième sorte de pacifisme. L'autre grande objection qu'on adresse au pacifisme, c'est l'exemple de l'Ancien Testament. Comme nous l'avons vu, il est tellement évident que dans l'Ancien Testament, il y a des guerres, et des guerres commandées par Dieu, que bien sûr, des gens ont réagi aux thèses des pacifistes depuis qu'elles ont été exprimées en invoquant l'Ancien Testament. Alors, quelle est la réponse des pacifistes sur ce point? Ils répondent en gros que nous ne sommes plus dans l'Ancien Testament. C'est en invoquant la nouveauté de la Nouvelle Alliance qu'ils réagissent en disant oui, dans l'Ancien Testament, parce que c'était préparatoire, parce qu'il y avait là un État théocratique, les guerres ont été tolérées par Dieu, et même peut-être commandé par lui, mais pour les disciples de Jésus, qui appartiennent à un tout autre ordre de choses spirituelles, il n'est plus question de faire comme sous l'Ancien Testament. Et puis, troisième grand volet dans l'argumentation des pacifistes, l'Église ancienne, du IIe au IVe siècle, en gros, est pacifiste. Le père de l'Église, Tertullien, a pu dire, par exemple, que qu'en désarmant Pierre, quand Pierre a voulu prendre l'épée pour défendre Jésus dans le jardin des Oliviers, le Seigneur avait dénoué le ceinturon de tout soldat. Et il est tout à fait certain que Tertullien a eu un enseignement pacifiste et qu'on retrouve d'autres textes allant dans ce sens, que la tradition apostolique d'Hippolyte au début du IIIe siècle est très forte dans le sens d'un pacifisme. Et c'est ce dossier que plaide en particulier Jean-Michel Ornu dans le livre que je vous ai signalé. C'est seulement quand l'empereur est devenu chrétien que les choses ont changé. Au début du IVe siècle, Constantin s'est converti au christianisme, or c'était un chef de guerre, et à la suite de ce changement constantinien, le christianisme est d'abord devenu religion licite, la religion de l'empereur lui-même, et puis ensuite, plus tard alors, mais toujours dans le même siècle, vers 380, il est devenu religion d'État. C'est seulement à partir de là qu'il y a eu collusion entre l'Église désormais établie socialement et l'État, et que les chrétiens n'ont plus objecté au service des armes, mais au contraire ont collaboré avec la puissance établie. Oui. C'est un exemple de l'adultération du christianisme qui est intervenue lorsqu'il y a eu confusion entre le spirituel et le temporel, lorsque l'Église s'est associée au trône. Hein, c'est la fameuse alliance du trône et de l'autel, du sabre et du goupillon, comme on l'a appelé. Voilà l'argumentaire pacifiste. Maintenant, quel est l'argumentaire de la position classique, ou classiciste, si vous voulez? Je pense que le point de départ le plus net, le plus fort en tout cas, c'est l'Ancien Testament. Dans la mesure où l'Ancien Testament donne un témoignage massif, surabondant, indiscutable, du fait que le Seigneur a pu commander des guerres, a pu susciter lui-même des guerriers, alors on part de là, dans l'argumentaire de la thèse classique. Tout de suite, on écarte la difficulté du « ne tueras pas », du « tu ne tueras pas » dans le décalogue. Il suffit de se reporter à l'original hébraïque. Ce n'est pas le mot « tuer » qui s'emploie dans toutes les situations, qui s'emploie pour la guerre. C'est un mot qui n'est pas très très fréquent d'ailleurs, le verbe « ratsach », qui signifie « commettre un meurtre », sous-entendu à titre privé, commettre, faire un assassinat. Voyez. Donc c'est une « commettra pas d'assassinat ». Et le contexte montre bien de la loi même, avec les peines de mort qui sont prescrites pour les transgresseurs, et puis donc les guerres de l'Éternel, comme elles sont appelées, que ce commandement n'est pas considéré du tout comme incompatible avec le service de la guerre. Donc l'Ancien Testament nous présente cette participation des croyants à la guerre, et, dit la thèse classique, cela n'est pas révoqué dans le Nouveau Testament. Dans le Nouveau Testament, nous n'avons pas la moindre indication que là-dessus, il y ait eu un changement. Or, il faut partir foncièrement de la continuité entre l'Ancien et le Nouveau Testament. C'est le même Dieu. Le Nouveau Testament accomplit toutes les promesses de l'Ancien. La Bible que les premiers chrétiens ont eue en main, c'était l'Ancien Testament seulement. Pendant plusieurs dizaines d'années, c'était leur Bible et c'était l'Ancien Testament qu'ils commentaient dans les assemblées. Il faut considérer qu'il y a d'abord eu continuité. Le mot même d'Église, c'est une traduction du mot pour l'Assemblée d'Israël. Ecclésia traduit le mot Kahal, et d'ailleurs dans le discours d'Étienne en acte 7, ce mot Ecclésia, Église, est employé pour l'Assemblée d'Israël au désert. L'Église s'est conçue comme l'Israël de Dieu, comme la continuation d'Israël dont les promesses s'accomplissaient par la venue du Messie d'Israël. Et donc, dit l'argument, il faut d'abord considérer la continuité. Certaines choses ont été abrogées, mais quand ça a été abrogé, c'est dit, c'est clair. Or, rien n'est dit à ce propos qui n'est pas quand même de peu d'importance. Donc, puisque nous n'avons pas dans le Nouveau Testament d'indications de rupture, de discontinuité à propos du service militaire, alors il faut penser que ce qui valait dans l'Ancien Testament n'a pas été modifié par la nouveauté du nouveau. En ce qui concerne le sermon sur la montagne et le commandement d'aimer, il faut bien observer qu'il s'agit, comme dans l'Ancien Testament d'ailleurs, où le commandement d'aimer est aussi présenté, des relations de personne à personne. C'est lorsqu'il y a un grief, des torts, un conflit entre un homme et un autre, mais il ne s'agit pas du sujet de la guerre. Et on ne peut pas simplement étendre cela à tous les domaines et à tous les plans. Deuxième argument, dans la mesure où il y a des données dans le Nouveau Testament, où ce n'est pas simplement le silence, ça continue comme c'était avant, sur ce sujet précis, dans la mesure où il y a des indications, elles vont plutôt dans le sens d'une confirmation de l'Ancien Testament. Il y a pas mal de soldats qui interviennent dans le Nouveau Testament, des soldats et d'officiers, les centurions. Et il y aurait eu ample occasion, si la nouveauté du Nouveau Testament avait impliqué de cesser de porter les armes et de participer à des opérations guerrières, de le faire apparaître. Les soldats viennent auprès de Jean-Baptiste, au seuil de l'Évangile, et lui demandent qu'est-ce qu'il nous faut faire. Il ne leur dit pas cesser d'être soldats, user des armes est incompatible avec l'ordre nouveau qui maintenant s'établit. Il leur dit de se contenter de leur solde, de ne pas commettre d'exaction, donc de faire leur travail de soldat de manière conforme aux règles. C'est une donnée qui se trouve ensuite confirmée par la manière dont les centurions, centeniers ou centurions, sont présentés dans les textes des évangiles ou du livre des actes, très favorablement. Jamais, j'ai même pas vu une telle foi en Israël, dit Jésus de l'un d'eux, et on les voit dans le Nouveau Testament, il y a Corneille. Nulle part, il y a la moindre suggestion qu'ils devraient changer d'état, que leurs conditions militaires seraient jugées défavorablement dans ces textes. Voilà donc un argument qui est avancé. Et puis alors, il y a Romains 13. Le passage que nous avons lu ensemble, dans sa première partie de Romains 13. Mais l'ensemble qui encadre est très intéressant aussi. D'abord pour montrer qu'il ne s'agit pas du tout de revenir sur l'exigence d'amour qui est énoncée, mais comment le rôle du magistrat avec l'épée qui lui a été remise est-il compris? Il est compris comme quelque chose que Dieu a institué, ce n'est pas simplement une canalisation du mal qui est dans le monde, là les termes sont beaucoup trop forts, une chose que Dieu a instituée pour servir à sa colère, c'est-à-dire à sa juste indignation contre le mal commis. Au chapitre 12, l'apôtre dit « Ne vous vengez pas vous-même, donc ne rendez pas le mal pour le mal, laissez agir la colère ». Car Dieu a dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Et au début du chapitre 13, il présente le magistrat comme établi, comme serviteur de Dieu, pour servir sa colère. Donc, ce qui fonde l'injonction qui est adressée aux chrétiens de ne pas se venger, de ne pas user de la force pour rétablir leurs droits dans leur rapport avec les autres humains, c'est qu'il y a des magistrats pour veiller aux droits et qui usent, selon Dieu, de la force pour ça. Alors, l'argumentaire de la thèse classique poursuit en disant, donc nous avons là l'indication très claire qu'aux yeux de Dieu, il faut, parce que le monde est un monde pécheur, à cause du péché qui est dans le monde, il faut qu'il y ait des hommes qui usent de la force pour réprimer les actes délictueux, pour combattre le mal et ainsi protéger le bien. Ils ont pour cela le glaive, bien sûr c'est un glaive symbolique que porte le juge lui-même, mais il signifie la force qu'il peut mettre en branle pour que les décisions de justice soient appliquées, pour qu'il y ait effectivement exécution. Et alors, c'est là un point tout à fait décisif pour la thèse classique. Il faut étendre cela de la situation à l'intérieur du pays à la situation des relations internationales. La logique de la thèse classique, c'est de dire le magistrat qui a charge de l'ordre public ou du bien public, qui est muni de l'épée pour cela, doit réprimer l'action du malfaiteur interne, mais si le malfaiteur vient du dehors, s'il vient d'au-delà des frontières, c'est la même chose. Il garde la même responsabilité à l'égard de la communauté qui est placée sous sa garde. Ça ne fait pas foncièrement de différence si c'est une bande de malfaiteurs qui écume une province, mais qui sont des citoyens qui sont de la nationalité du pays, ou si c'est une bande qui vient d'au-delà de la frontière. Or, qu'est-ce qu'une armée ennemie, sinon une bande qui vient détruire, qui vient agresser à l'intérieur des frontières de notre État. Et donc, ce qui, dans la logique de la thèse classique, fonde qu'il peut y avoir une guerre juste, c'est qu'il y a des magistrats munis de l'épée pour réprimer le malfaiteur. Alors, à cela, on peut ajouter deux, trois petits raffinements doctrinaux. Il faut clarifier les choses en ce qui concerne le sujet de la violence, et aussi de l'amour d'ailleurs. Qu'appelle-t-on violence? En fait, c'est un mot extrêmement piégé. Dans les dictionnaires même, vous avez divers sens possibles. On peut appeler violence tout exercice extrême de la force. Et dans ce sens, on pourra parler d'un vent violent, un vent très fort, c'est tout. Mais à ce moment-là, c'est moralement neutre. Que ce soit violent ou non, c'est simplement que c'est un haut degré. Lorsqu'on emploie le mot violence dans un contexte moral, c'est généralement avec une nuance défavorable. Alors, est-ce qu'il faudra dire la violence, c'est la force qui est illégitime par opposition à une force légitime? Moi, je trouve plus utile encore une distinction que j'ai trouvée chez Jacques Maritain, le grand philosophe catholique. Il dit qu'il y a violence quand il y a usage de la force que ne sanctionne pas une loi positive. Une loi positive, c'est une loi qui existe, qui est effectivement promulguée dans un pays donné, par opposition à la loi morale, à la loi des grands principes, si vous voulez. Une loi positive, c'est une loi qui a été effectivement publiée au journal officiel. Alors, il dit, il y a violence quand il y a un usage de la force qui n'est pas dans ce cadre-là, qui s'oppose à ce cadre-là. Alors, il peut y avoir des violences légitimes, parce que la loi édictée peut être injuste. Elle peut être oppressive. Donc, le mot violence n'est pas forcément, quand on le définit comme ça, un mot qui caractérise quelque chose d'inacceptable. On peut imaginer une violence légitime lorsque la loi elle-même est inique ou peut-être qu'il y a carence quant au droit positif. Mais il y a aussi, bien sûr, les violences illégitimes en même temps qu'illégales. Voyez. Je pense que si on emploie cette notion de la violence, on clarifie les débats et on se rend compte que toute violence donc n'est pas exclue et que lorsque quelqu'un fait la guerre selon les critères de la guerre juste, ce n'est pas de la violence, selon cette définition, parce que c'est le droit positif qui est respecté. C'est un usage de la force. Maintenant, il y a le rapport à l'amour. Alors ça, c'est beaucoup plus profond, beaucoup plus déterminant dans tout le débat. Et je pense de nouveau que c'est un des nœuds dans la confrontation que j'essaye de décrire et d'analyser. Pour la thèse classique, l'amour n'est pas incompatible avec l'usage de l'épée. L'amour même pour le transgresseur. C'est, disent les partisans de la thèse classique, un sentimentalisme faux, en fait, que de penser que si le juge condamne même à mort le criminel, c'est qu'il ne l'aime pas, que c'est là contraire à l'amour. Pas forcément. Étant donné le mal qui est dans le monde, c'est aussi une façon d'honorer l'être responsable qui est en lui. Ça peut se faire sans aucun sentiment de haine. Seulement avec le sens des responsabilités apportées. Et c'est ce que Dieu fait quand il condamne. Dieu aime. Et Dieu condamne. Donc, là, il y a vraiment un très grand débat. J'ai lu, en me préparant, là, dans le fascicule de Wenger, mais ce sont des remarques de M. Pierre Widmer, que j'ai bien connu et beaucoup aimé, qui lui, ne peut pas comprendre ça. Non, il le rejette. Voilà, ça, non. L'idée qu'on puisse dire, j'aime, et en même temps, je le tue. Je l'aime, et la même fois que je le tue, ça, il ne peut pas l'encaisser. Il ne peut pas le croire. Et pourtant, c'est ce qu'affirmeront les tenants de la thèse classique. Et je l'ai trouvé aussi sous la plume du philosophe protestant libéral Paul Ricoeur, qui sera d'ailleurs à la faculté de Vaux-sur-Seine pour le colloque du mois de mars. Donc, ça c'est un point tout à fait névralgique. La thèse classique, je dirais, elle a contre elle ce qui semble l'évidence spontanée de la vie sentimentale des humains. On se dit, mais je ne peux pas le vivre comme ça. Et elle a pour elle le modèle divin. Dans la mesure où le modèle divin est très clairement que Dieu, en restant le Dieu amour qu'il est aussi capable de condamner et de mettre à mort. Voilà donc un point tout à fait décisif dans le plaidoyer. Quant au troisième volet, il s'agit du témoignage de l'Église ancienne. Et là, je pense pouvoir dire, j'ai étudié très minutieusement le livre d'Ornus, j'ai étudié ce long article de David Wright, Les citations des pères de l'Église, dire que la situation est complexe. Bon, la thèse classique, c'est, elle est défendue par David Wright, par exemple, qu'en fait, l'Église des premiers siècles n'est pas unanime. D'abord, on n'a pratiquement aucune donnée avant 170, avant un siècle, pratiquement après le temps des apôtres. Il n'y a de données qu'à partir de 170 environ après Jésus-Christ. Ça fait quand même déjà un bon intervalle. Ensuite, autre élément, il y a eu des soldats dès cette époque et par la suite encore dans l'Église chrétienne. Alors on ne peut pas savoir exactement le pourcentage, mais c'est très intéressant de voir que même les pères qui se sont exprimés dans le sens pacifiste attestent eux-mêmes la présence de ces soldats. Tertullien, qui est peut-être le plus pacifiste, le plus éclatant en tout cas dans ses déclarations pacifistes, raconte, ce qui est probablement une légende, mais l'histoire de la légion Fulminata, qui était entièrement une légion chrétienne et pour laquelle des miracles se sont produits. Et aussi d'autres chrétiens qui avaient refusé une récompense particulière pour des exploits de soldats, c'était un chrétien. Alors il en fait la louange, et donc il atteste lui-même qu'il y avait des chrétiens, soldats, assez nombreux. Mais, je dis assez nombreux, le pourcentage n'a pas été établi. Il y a aussi les épitaphes. Ensuite, pourquoi était-il opposé, ceux qui étaient clairement opposés, au service militaire? Le motif de ne pas verser le sang n'est pas absent des textes, mais il est éclipsé nettement par un autre motif. Le principal motif semble avoir été que être soldat, ça voulait dire faire un sacrifice à l'empereur, un serment d'allégeance totale à l'empereur, et participer au culte païen. Donc c'était un compromis avec la religion d'État de l'empire idolâtre qui était l'empire romain. Et c'est ça qui semble être d'abord jugé incompatible avec l'état militaire. Et David Wright argumente que c'est ce qui explique comment, dès que l'empereur est devenu chrétien, alors ça s'est renversé. Parce qu'à ce moment-là, le problème a disparu. Si ça avait été le problème moral de porter les armes, il y aurait quand même eu encore des réticences, il n'y aurait pas eu ce renversement si rapide. C'est au point que, c'est en 313 que Constantin s'est converti, et en 314, il y a un concile en Arles, la ville d'Arles dans le sud de la France, qui excommunie les soldats qui déserteraient. Parce que le contexte est très probablement que comme l'empereur était devenu chrétien, ils se sont dit, oh ben si nous désertons maintenant, alors il n'y aura plus de problème, nous sommes chrétiens, nous désertons. Et alors il y a un concile qui, des menaces d'excommunication. Un an après la conversion de l'empereur seulement. Donc, une situation qui n'est pas tout à fait aussi simple que celle que le dossier pacifiste présente. Voilà donc les grands éléments de l'argumentation de la thèse classique. Alors, appréciation et remarques complémentaires. Sur la question historique de l'Église des premiers siècles, je dirais qu'il me semble qu'elle a été de manière prédominante pacifiste, mais l'avantage à la thèse pacifiste me semble léger et peu décisif en la matière. Je pense que ça a été l'attitude majoritaire parmi les chrétiens, mais ça n'a pas été la seule. Elle n'a pas été profondément argumentée, elle a été motivée de façon complexe. Voilà l'impression que j'ai. De toute façon, pour nous, ce n'est pas quelque chose de normatif, ce qui s'est trouvé majoritaire dans l'Église ancienne à partir de la fin du IIe siècle. Nous ne le suivons pas sur tous les points, de loin. Donc, sur ce point, voilà comment je conclurai. En ce qui concerne les autres arguments, vous le savez, je ne vais pas développer beaucoup, je suis un adepte de la thèse classique. Et dans ce fascicule, je développe davantage. Mais je me contente donc de vous dire qu'il me semble que les arguments-là sont plus forts du côté de la thèse classique. Et je fais là la remarque suivante. Il y a manifestement une différence de lecture de l'écriture, une différence qu'on appelle en termes techniques une différence herméneutique, c'est-à-dire relative à l'interprétation. Comment comprendre les textes ? Il y a la question du rapport entre l'Ancien et le Nouveau Testament qui est posée, et plus encore peut-être la différence entre une lecture que certains appelleraient naïve, je prends le texte, vous ne résisterez pas aux méchants, bon alors, donc ça exclut le service des armes, et une lecture qui est moins immédiate, qui se reconstruit, qui dit oui, mais il faut prendre ce texte avec les autres textes, avec une vision un peu globale de l'ensemble du progrès de l'histoire sainte, des alliances de Dieu, etc. Vous voyez ? Je pense que ça, c'est vraiment un élément d'aiguillage décisif. Comment on va prendre les textes ? Qu'est-ce qu'on privilégie ? Et alors là, je voudrais signaler qu'on peut très facilement dire qu'il y a un parallélisme entre cette question et la question du baptême. La question du baptême des enfants. Effectivement, on peut voir un certain parallélisme. Ceux qui défendent le baptême des enfants partent de l'Ancien Testament et de la continuité entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Et ils disaient dans l'Ancien Testament, le signe de l'Alliance, la circoncision, était administré aux petits enfants. Cela n'est pas abrogé dans le Nouveau Testament. Donc, le signe qui remplace la circoncision, le baptême, doit être administré aux petits enfants. Et il ne faut pas se laisser impressionner parce que ce n'est pas dit, parce que c'est la continuité avec l'Ancien Testament. Vous voyez que vous avez un argument structuré d'une façon assez semblable. Alors, je reconnais qu'il y a une certaine similitude, et en même temps, je dis qu'à mon avis, l'argument classique vaut sur la question de la guerre, du service militaire plus exactement, mais qu'elle ne vaut pas pour le baptême des enfants. Pourquoi ? Parce que, précisément, quand on examine les données, ce n'est quand même pas équivalent. Il est question de la circoncision dans l'Ancien Testament, il n'est pas question de la circoncision dans le Nouveau, ou plutôt pour dire que la circoncision est abrogée. Mais nulle part, il n'est dit, le baptême, c'est comme la circoncision, et elle prend la place de la circoncision avec les mêmes conditions. Ce n'est pas dit. Alors que, sur la question qui nous occupe, ce serait toujours le même sujet de la participation aux conflits armés. Et puis, d'autre part, alors, nous avons, dans le Nouveau Testament, nous avons des indications nettes sur ce qui doit régler l'administration du baptême. Donc, ce qui est légitime, cette reconstruction sur la base des textes un peu partout, lorsque l'on traite de la question de la guerre, ne me semble pas légitime lorsqu'on le fait pour dire que les petits-enfants doivent être baptisés. Mais je vous cite cet exemple très, très franchement pour que vous voyez bien quels sont les principes en jeu et comment il faut affûter sa manière de considérer les textes. Je signale aussi, je vois que mon temps est presque échu, donc je vais faire très bref, je signale aussi que certains arguments nouveaux sont apparus au temps moderne. Des gens disent, avec les armements modernes, et en particulier avec l'arme nucléaire, il n'est plus possible de respecter les règles de la guerre juste. Toute guerre est injuste. Toute guerre s'attaque aux civils, aux non-combattants, alors que c'est un des principes de la guerre juste, qu'ils doivent être épargnés autant que possible. Donc, nous ne pouvons pas être pacifistes dans ces conditions nouvelles. Et vous avez des gens qui ne sont pas pacifistes, globalement et par principe, mais qui sont pacifistes nucléaires. C'est le cas du très grand prédicateur évangélique John Stott. John Stott est donc un pacifiste partiel, mais par rapport à l'arme nucléaire. Alors, sur ce point, il y a débat, il y a eu des articles dans Ixtus, autrefois, sur ce propos. Je dirais que je ne suis pas convaincu par l'argument de John Stott, et donc par la thèse de ceux qui veulent restreindre les moyens de guerre possibles aux armes conventionnelles. D'abord, toutes ces armes conventionnelles, dès qu'elles sont apparues, ont été aussi jugées incompatibles pratiquement chaque fois. Il y a eu un concile, j'ai ça dans mes notes, qui a mis hors la loi, quand elle est apparue, l'arbalète. L'arbalète, plus efficace que l'arc, alors c'était une arme considérée comme bien trop massive. Chaque fois qu'il y a une arme nouvelle, on a réagi comme ça. Il y a une différence, même à l'âge nucléaire, entre les civils, les non-combattants, et les combattants, les cibles qui ont un intérêt proprement stratégique, et on sait très bien discerner encore de nos jours des crimes de guerre, d'une conduite de la guerre qui reste, malgré tout, dans le cadre de certaines règles. On l'a bien vu en Yougoslavie aussi. Et l'arme nucléaire elle-même, se trouvant miniaturisée, il y a des usages des armes conventionnelles qui sont plus dévastateurs et plus massifs que l'arme nucléaire elle-même. Donc, il ne me semble pas que nous ayons une position du problème qui soit radicalement différente lorsque nous envisageons cette arme nucléaire. Et puis, une dernière remarque. Il me semble utile de faire une distinction qui est assez rarement faite, celle qui est entre gouvernant et gouverné. Les critères de la guerre juste me semblent s'appliquer aux gouvernants. Et un chrétien qui est au gouvernement, alors il doit les prendre extrêmement à cœur. Toutes les négociations ont été tentées, tous les autres moyens ont été épuisés, c'est vraiment une guerre d'agression, on utilise des moyens proportionnés, etc. Mais les gouvernés, nous, les simples Pékins, que pouvons-nous savoir de ces choses? Et nous sommes tellement manipulés par les moyens d'information. Aujourd'hui, il y a des moyens d'information alors qu'il n'y en avait pas. Seulement, ils nous sont tellement manipulateurs. Comment savoir? Alors, il me semble qu'il faut distinguer entre les gouvernants et les gouvernés, et que pour les gouvernés, il faut dire qu'en principe, ils sont soumis aux autorités supérieures, qui portent la responsabilité, elles, de leurs actes, qui en rendront compte au Seigneur qui les a établis. Mais que les gouvernés, n'ayant pas les moyens en général de juger de la justesse globale d'une guerre, ne peuvent objecter en conscience et refuser ce qui leur est demandé que lorsqu'il y a une sorte d'évidence de crime de guerre, d'évidence de piétinement des principes qui ont été synthétisés sous le titre de la guerre juste. C'est seulement dans ce cas, et ça veut dire qu'il y a quand même un certain flou. Apprécier ces moments, selon l'information qu'on a, ce n'est pas très très facile, et à cause de ce flou en particulier, et aussi des conditions plus générales de l'histoire de la dispensation dans laquelle nous sommes, je crois pouvoir dire que moi, qui suis un adepte de la thèse classique, un adhérent de la thèse classique, je crois que je dois laisser la possibilité de vocation spéciale. La guerre étant un mal dans un monde déchu, même si c'est un moindre mal dans certains cas, je pense que Dieu peut susciter certains hommes, certaines femmes, qui ne porteront pas les armes, à qui Dieu aura dit que leur témoignage propre sera de ne pas le faire. Je pense que le chrétien n'a pas, dans l'enseignement biblique, de raison qui s'oppose à ce qu'il porte les armes, voilà ma conviction, je ne suis pas pacifiste dans ce sens, mais je pense que Dieu peut susciter de telles vocations, et ça a une conséquence évidente, c'est que nous devons donc ne pas nous juger les uns les autres si nous avons des options un peu différentes, dans la pratique comme dans la doctrine en pareille affaire. Voilà, j'ai juste réussi à atteindre midi et demi. Je ne veux pas empêcher quand même, pour ceux qui peuvent rester encore de quelques minutes, une intervention ou une autre. Conformément à ce qui a été suggéré, je prévois une troisième étude, probablement en avril, une troisième étude sur le chrétien artisan de paix. Mais ce serait une autre étude. Oui, madame. Oui. Dans ces conditions, que fait-on d'Éphésiens 6, 12, les armes du chrétien ne sont pas charnelles? La réponse que je donnerai, je n'ai pas eu le temps de mettre ce point en valeur, mais je l'ai fait dans le fascicule, c'est que le chrétien a une double citoyenneté. Le chrétien est citoyen de la cité céleste, et il est aussi citoyen, par exemple romain pour l'apôtre Paul, avec des droits et des devoirs afférents. Et il me semble que je peux répondre à ce moment-là qu'Éphésiens 6, 12 concerne le chrétien en tant que citoyen de la cité céleste. En tant que chrétien, un homme en qui la nouvelle création a commencé, il est engagé dans un combat spirituel où les armes sont spirituelles. Et c'est pourquoi il n'est pas question d'utiliser les armes charnelles en matière religieuse pour conduire à la foi. Mais il reste qu'il est aussi citoyen de la cité terrestre, et que là, ce n'est pas en tant que chrétien, c'est en tant que membre de la cité terrestre qu'il doit être soumis aux autorités, et à mon avis, qu'il peut participer à un conflit armé où sa collectivité est impliquée. Oui. Oui. Alors, c'est le rappel de la parole de Jésus répondant à Pilate, mon royaume n'est pas de ce monde, en Jean 18, et puis la parole de Jacques 5 sur le juste qui a été assassiné par ceux que dénonce Jacques et qui n'a pas résisté. Alors, en ce qui concerne mon royaume n'est pas de ce monde, c'est exactement ce que je veux dire. C'est la cité céleste, le royaume du Seigneur Jésus. Précisément, elle n'est pas de ce monde, et il ne s'agit pas de combattre pour le royaume du Christ par des armes charnelles. Mais il y a l'autre plan, dans ce vieux monde pécheur, où la sagesse de Dieu a établi des magistrats, où le rôle de l'épée est là pour empêcher que le mal déborde de toutes les proportions où il peut encore être maintenu. En ce qui concerne Jacques 5, je dirais que c'est comme pour le sermon sur la montagne, ce que j'ai dit tout à l'heure, il s'agit du juste dans ses relations personnelles, lorsqu'il s'agit de torts personnels et de conflits avec ses proches ou ses associés, c'est là qu'il ne résiste pas. Oui. Ensuite, Mm-hmm. Oui, oui, oui. 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 Donc le rappel est au fait que dans l'Ancien Testament, lorsque Dieu utilise des peuples étrangers pour châtier Israël avec leurs armées, il les châtie à leur tour ensuite. Mais je pense intéressant de signaler qu'au début du livre de Zacharie, je pense que c'est le premier chapitre si je me rappelle bien, il est souligné que ces peuples utilisés par Dieu pour châtier Israël ont excédé la mesure, qu'ils ont fait plus que ce que le Seigneur leur avait en quelque sorte confié comme tâche de punition. Oui, monsieur, tout au fond. Oui, oui. En ce qui concerne le principal de votre intervention, à mon avis, si je comprends bien, c'est le même point qu'avait soulevé Madame aussi, il s'agit d'une réduction de toute l'identité du chrétien à sa citoyenneté céleste. Vous avez souligné ce qui est afférent à cette citoyenneté céleste, et là j'en suis tout à fait d'accord, et je réprouve de la manière la plus formelle, comme je l'ai fait, c'est notre héritage baptiste aussi, l'idée d'une guerre qui serait menée avec des armes charnelles pour la cause de l'Évangile, une croisade, ça c'est tout à fait exclu. Mais la thèse que j'ai défendue, qui est la thèse classique, et je crois qu'elle est fondée bibliquement, c'est celle d'une double citoyenneté, du fait qu'étant dans le monde, même si nous ne sommes plus du monde, nous appartenons toujours à des collectivités avec des droits et des devoirs qui ressortissent à cette seconde citoyenneté. C'est à ce titre, ce n'est pas en tant que chrétien membre du royaume ou de la cité du Christ que nous combattons, si nous combattons dans des armées, nous combattons en tant que Français, citoyens, et par la volonté de Dieu, maintenus dans cette citoyenneté tant que le monde est en sursis. Et en ce qui concerne l'évangélisation, bon, heureusement, par un effet de la grâce commune de Dieu d'ailleurs, pour que ce vieux monde en sursis survive encore, tous les humains ne sont pas combattants, tous et en même temps. Donc, même si certains sont enrôlés sous les armes, il y en a d'autres qui peuvent être évangélistes, puisque vous posez la question. Et puis, sous les armes elles-mêmes, il y en a, et il y en a eu, qui évangélisent. Évangélisent leurs camarades d'armes, mais éventuellement évangélisent aussi les populations civiles parmi lesquelles elles se trouvent. Donc, il n'y a pas non plus là incompatibilité. Bon, nous avons atteint l'heure. Je pense qu'en liaison avec notre troisième étude, d'autres questions pourront encore être soulevées. Hein.